Retour sur la manifestation unitaire contre la loi travail et son monde. C'était à Lille le mardi 28 juin dernier. On a récolté quelques témoignages parmi les 3 à 4 000 manifestants à vue de nez. On commence par écouter un syndicaliste belge.
Je suis Frankie Roels de ABVV West-Vlaanderen, le syndicat socialiste belge.
Qu'est-ce qui vous amène ici à Lille aujourd'hui ?
Les problèmes sont pareils en Belgique qu'en France. Le gouvernement extrême droite ou droite fait des choses contre les travailleurs et on peut travailler ensemble. C'est la solidarité entre les deux pays qui fait que nous sommes ici. Le ministre belge, Peters, a un même système qu'en France, la loi de travail ici, qu'on veut changer. En Belgique, c'est pareil. On veut changer dans une nouvelle loi qui fait une flexibilité inconnue et la vie privée des travailleurs est impossible avec des lois comme ça.
Oui, c'est cette loi Peters dont vous nous parlez.
Il est ministre du Travail en Belgique. C'est un ministre d'un parti chrétien, mais il était avant, il était responsable d'une organisation des patrons, des petits patrons. Ils sont complètement contre les travailleurs. Ils veulent diminuer tous les droits qui sont améliorés dans le passé. On a battu plus que 100 ans pour avoir des droits et maintenant ils peuvent mettre tout sur la poubelle. Ce n'est pas le problème des entreprises, mais ce sont eux des actionnaires qui veulent gagner plus en plus. Et ce n'est pas eux qui travaillent, ce ne sont pas les patrons ou les actionnaires qui travaillent, ce sont les travailleurs qui travaillent pour améliorer l'argent que les entreprises gagnent. Et maintenant, c'est tout pour les patrons et plus pour les gens qui travaillent.
Alors ici en France, la loi est en train de passer devant le Sénat puis l'Assemblée nationale. Où en est la loi en Belgique ?
C'est un petit peu pareil, mais on a voté un gouvernement droit. Ils n'ont pas la majorité dans plusieurs parts du pays. Mais il fait des choses à être très graves et toujours c'est la faute d'Europe qu'il dit, mais non, c'est pas la faute d'Europe, c'est la faute de eux qui prennent les décisions. Les décisions sont prises dans les pays, c'est le gouvernement français ou belge qui les prend, mais s'il y a des problèmes, il dit c'est d'Europe que ça vient et ça c'est pas vrai. Il ne veut pas prendre leur responsabilité pour défendre leur position contre l'électorat.
Alors où en est la mobilisation contre cette loi Peters en Belgique ? Est-ce que les gens se mobilisent fortement ?
Oui, on est déjà. Maintenant, on est presque deux ans et demi dans un plan d'action. Ça veut dire que chaque mois, il y a des manifestations, des grèves. Vendredi passé, on a eu une grève générale en Belgique. En octobre, il y a une grande mobilisation en septembre. Maintenant, juillet et août, parce que c'est le congé, on arrête un petit peu. Mais on est déjà deux ans et demi en train de combattre le gouvernement.
Alors je sais qu'à la rentrée, ils se préparent des choses justement ensemble, entre les syndicats français, les syndicats belges et puis plus largement les syndicats européens.
Vendredi passé, une délégation des gens qui sont ici, des différents syndicats français, étaient à Bruges chez la manifestation, mais aussi sur la frontière ANO, ils étaient là. Ils étaient dans des manifestations un mois passé, le 24 mai, en Bruxelles. Il y a une grande délégation des syndicats français. Je pense que dans le futur, on a septembre et octobre pour commencer chez nous en Belgique, mais je pense que ça reste le même en France. Si le gouvernement ne veut pas changer son direction de lois, ça peut durer encore des ans. Hein. En Belgique, on est en train de se préparer pour un plan d'action en total de 5 ans.
Dernière question, la difficulté pour fabriquer comme ça des ponts entre les syndicats européens, c'est aussi il y a des cultures syndicales. syndicales très différentes, hein, en Allemagne, en France, sans parler de l'Angleterre et de l'Italie et de l'Espagne. Comment vous voyez ça un petit peu ?
Oh, c'est très difficile parce que normalement on a les mêmes problèmes avec le gouvernement, mais tout est pris dans son, chaque pays avec ses problèmes directement, qu'on n'a pas assez de temps pour s'organiser ensemble. Ça, c'est un petit peu le problème. C'est pas de, on veut travailler ensemble, mais on est mis dans une position qu'on a, c'est presque impossible pour agiter si vite à ce qui passe. Ça, c'est un petit peu le problème. Et ça passe partout, comme en Espagne, en Grèce, en Italie, c'est partout le même. En Portugal, les problèmes sont les mêmes. Mais c'est un petit peu difficile. Pour moi, j'ai des problèmes pour parler le français un petit peu, mais c'est difficile avec la langue et tout ça pour se travailler ensemble.
Merci, vous parlez un très bon français. Hein.
Non, mais j'essaye. Hein.
Alors moi je m'appelle Ouli, j'ai 17 ans, je suis à Pasteur et je suis responsable de la com à l'UNL.
Pasteur, c'est où ?
C'est Lille, là-bas, à la côté de la gare.
Moi je m'appelle Priscilla, j'ai 17 ans, je suis aussi à Pasteur et je suis bientôt adhérente à l'UNL.
Ça fait longtemps que tu es mobilisée contre cette loi
depuis
travail,
le début,
quoi ?
Depuis le début. Tout mon trimestre, j'ai raté mon trimestre de cours à cause de ça, je le dis. Depuis fin février, on est dans la rue.
Tu regrettes d'avoir raté ton trimestre ou pas ?
Non, pas du tout, du tout. Non, mais faut assumer les deux, quoi. Mais bon, ça va, on a réussi le bac, tout va bien, on est en vacances, ça y est. On continue.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Parce qu'au début de ce mouvement, en mars, il y avait beaucoup de lycéens qui étaient mobilisés. Et puis finalement, cette mobilisation lycéenne, elle s'est un petit peu peut-être étiolée au fil des...
La fatigue, il fallait retrouver pour mobiliser. Elle est très longue cette mobilisation, c'est une crise sociale qui s'est étendue sur longtemps et je pense qu'on est très fatigué là. Il y avait les examens, les révisions, le troisième trimestre, le passage en terminale et il y en a université, donc c'était très compliqué quand même de mobiliser. Mais on a bien réussi quand même.
Dans certains lycées, effectivement, il y a eu beaucoup d'échanges et de débats, donc peut-être pas dans tous les lycées. Enfin, comment tu vois un petit peu l'organisation des discussions au sein des différents lycées ?
Il n'y a pas de discussion, c'est entre nous en fait. Au lycée, on ne parle pas avec le directeur et tout ça, on peut pas parler, on parle entre nous en dehors et on est obligé de mobiliser en dehors. On n'a pas le droit de toute façon au sein des lycées, donc ça se passe comme ça, sur les réseaux sociaux, partout.
Comment tu vois un petit peu la suite, toi ?
Ça va finir en crise. On est déjà en crise, mais pire que ça. Comme l'État refuse de discussion, refuse de réécrire le texte, je pense que ça va mal finir. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Il y a des censures, il y a trop de censures, il y a un mépris du peuple et du patronat qui méprise le peuple et ses salariés, donc ça va pas marcher quoi. Voilà.
Je m'appelle Dorian Valois, je suis secrétaire général du syndicat CGT Cargill au Bourdin.
Alors c'est quoi Cargill au Bourdin ?
C'est une entreprise agroalimentaire en fait. Donc on sépare en gros tous les composants du maïs, je simplifie. Hein. Et on traverse actuellement un PSE, on va avoir 26 licenciements là, très prochainement. Donc Cargill est un très grand groupe, hein. C'est les profits d'abord, au détriment des salariés et de la misère que ça va provoquer.
Donc 26 licenciements sur combien de...
On est un peu moins de 350 salariés. C'est une entreprise mondiale, il y a plein d'entreprises Cargill en France.
C'est une entreprise qui a des difficultés particulières ?
Non, mais qui veut des profits de plus en plus. Des goals, comme ils appellent. Il faut dépasser les goals.
Alors comment ça va se passer pour trouver 26 personnes à licencier ?
C'est un licenciement économique et on rentre dans un PSE. Donc là, on va attaquer les négociations. Donc, il y a des mouvements de prévus, on a fait des assemblées générales, on va faire des mouvements.
Donc si c'est un licenciement économique, c'est qu'il y a des problèmes économiques alors ?
Oui, mais ils manipulent les chiffres comme ils veulent. Malheureusement, ils savent y faire. Hein. Ils ont des juristes, ils ont tout, ils ont des comptables, ils savent comment manipuler les chiffres, on va dire.
Et ça, vous le savez depuis quand alors ?
Ça, on a appris ça il y a une semaine. Et donc, il y a des mouvements prévus là, la semaine prochaine.
Avant ça, est-ce que au sein de l'entreprise, les gens étaient mobilisés contre la loi travail ?
Oui, mais de moins en moins. Y a eu trop de mobilisation, les gens n'arrivent plus à suivre. Il y a eu trop de manifestations, les gens ont besoin d'argent, on est tenu avec des crédits et tout, et les gens n'arrivent plus à suivre. On a malheureusement de moins en moins de militants qui arrivent à nous suivre.
Et là, le fait qu'il y ait un plan de licenciement, est-ce que ça incite les gens à se remobiliser ou pas alors ?
J'ai pas vu la différence. Dans ma boîte, j'ai pas vu la différence. Pour l'instant, ils vont s'occuper de leur code d'abord, je pense. Et la loi travail, ça leur passe un peu au-dessus de la tête. Vu l'annonce qui est tombée, ça leur passe au-dessus de la tête.
Dans la loi travail, il y a aussi des choses qui sont prévues pour faciliter le licenciement des salariés ?
Malheureusement, oui. Vous irez m'expliquer comment faciliter le licenciement. Ça peut faire baisser le chômage. Donc c'est le monde à l'envers.
Moi c'est Pauline, je fais partie des étudiants mobilisés du collectif Archimède, je suis en licence de maths.
Alors Archimède c'est le nom d'un amphithéâtre qui a été occupé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois.
Il a été occupé du 23 mars à fin juin. Et c'est l'amphi qu'on a choisi d'occuper, et pour la tradition et aussi parce que c'était l'amphi qui était le plus pratique pour nous. L'occupation, elle est venue naturellement en fait parce que l'administration ne nous laissait pas des créneaux assez importants pour faire nos assemblées générales et parler de la lutte ensemble. Donc l'occupation, elle a dû se faire par elle-même parce qu'on n'avait pas de moyens pour lutter sans l'amphi, quoi.
Qu'est-ce que ça a permis cette occupation d'amphithéâtre ?
Cette occupation d'amphithéâtre, elle nous a permis de rassembler les gens en un lieu et c'était quand même... On a réussi à rassembler beaucoup de collectifs dans l'amphi, le collectif des chercheurs précaires, le collectif des interlutants. Beaucoup d'autres collectifs sont passés par Archimède, ça nous a permis aussi de sensibiliser les étudiants à travers des cafés populaires, à travers des projections débats, à travers des conférences. On a beaucoup travaillé sur l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est une éducation qui se veut horizontale, qui dit en gros que à tel moment tu peux être en position d'apprendre plein de trucs aux autres, mais tu peux aussi être en position d'apprendre des choses des autres. Et du coup, voilà.
Alors comment ça s'est terminé l'occupation de l'amphi ? Que tu peux raconter ?
En fait, l'occupation de l'amphi, elle s'est terminée parce que l'administration nous mettait vachement la pression et on avait du coup la menace de se faire évacuer par des CRS. En plus, on n'avait pas plus beaucoup d'intérêt à être sur la fac parce qu'il n'y avait plus d'étudiants à sensibiliser. Et donc on s'est dit que autant partir puisque on n'avait plus la sécurité qu'au départ on avait choisi l'amphi Archimède comme occupation parce que sur la fac les policiers ne peuvent pas intervenir comme ça, c'est l'administration qui doit donner son aval. À partir du moment où on n'avait plus cette sécurité là, on n'avait pas forcément beaucoup d'intérêt à rester là, sachant que c'était possible de faire une occupation autre part, quoi.
Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé après ? Est-ce qu'il y a eu un autre lieu qui a été occupé ? Ou comment ça se passe maintenant ?
On essaye de s'organiser avec les lieux qui sont disponibles des autres collectifs qui sont généreux avec nous et qui nous prêtent leurs endroits quand ils le peuvent et du coup ça permet de continuer. On recommence à reprendre du poil de la bête, à réussir à faire des actions, à préparer des actions de sensibilisation et tout ça. Il nous a fallu un petit temps pour se réorganiser différemment, mais là ça commence à rouler et on a pas mal d'objectifs à remplir, quoi. On a fait des actions de blocage économique comme le port de Centre la semaine dernière, les semaines d'avant on avait fait le port de Lille, on avait été bloqué aussi le siège du MEDEF à Tourcoing, je crois, non, à Mans-en-Barœul. Et voilà, on continue, on est toujours là, on essaye de faire, de lutter, quoi.
Et ce matin, alors, tu sais un petit peu ce qui s'est passé ce matin ?
Alors ce matin, j'y étais pas. D'après ce que j'ai compris, l'objectif, c'était de bloquer le rond-point des postes. Donc, c'est un des plus gros ronds-points de Lille, ça permettait de bloquer la ville et donc les CRS sont intervenus assez rapidement et d'après ce que j'ai compris, il y a eu 8 interpellations. Les gens, c'était les gens qui étaient dans la camionnette de la CGT.
Effectivement, mardi matin, suite à une action de blocage du rond-point des postes à Lille, 8 personnes ont été interpellées, dont un adolescent de 15 ans. À la fin de la manifestation régionale, donc mardi fin d'après-midi, une partie des manifestants a continué le cortège jusqu'au commissariat central de Lille pour demander la libération de ces 8 personnes. Une délégation a été reçue par le directeur de la police qui a annoncé la libération d'une militante CGT et de l'adolescent et le déferrement des autres personnes. 10 minutes après le bref compte-rendu de la délégation auprès des manifestants, les CRS sont chargés à plusieurs reprises sur les manifestants en utilisant gaz lacrymogène et matraque. A priori, ça s'est fait alors que les manifestants pacifiques commençaient à se replier. Alors on va terminer ce reportage en écoutant un dernier témoignage de manifestants à notre micro donc mardi dernier lors de cette manif régionale pour le retrait de la loi travail, quelqu'un dont le t-shirt nous a interpellés.
Je suis Hugues, je travaille dans le milieu associatif sur Oisel, à Lille.
Alors tu as un t-shirt qui parle de quoi ? D'une baisse de subvention, c'est ça ?
C'est ça, en fait, il y a eu un changement politique à la région. La région a mis pas loin de 6 mois à décider la répartition du budget. Et alors que les petits signes qui nous étaient envoyés nous laissaient penser que nous pouvions gérer notre année comme toutes les autres, c'est ce qu'on a fait. On a en fait un événement qui s'appelle nos quartiers d'été dans la région Nord-Pas-de-Calais qu'on mène à destination des publics dits prioritaires. Et donc cette année, 2 semaines avant le premier événement, on a appris qu'on devrait l'annuler parce que nous avons subi une baisse de 40%. Je sais que sur l'île sud, c'est 50% et que d'autres endroits dans la région, ça s'est monté jusqu'à moins 70%. Donc on a voulu jouer le jeu un peu sur la période des soldes. Donc c'est la culture soldée, quoi. L'accès à la culture pour tous, c'est soldé. Nous, moins 40% jusqu'à moins 70%.
Voilà. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas nos quartiers d'été, hein, c'est un programme d'animation sociale et culturelle pour celles et ceux qui partent pas en vacances.
Voilà, c'est exactement ça. C'est dans l'idée que toutes les familles qui ne peuvent pas partir en vacances ou qui cassent déjà bien la tirelire pour pouvoir aller à Brédune, puissent bénéficier de vacances. Après, ce qui est intéressant dans ce dispositif-là, c'est que tous les habitants sont acteurs, sont invités à venir organiser leurs vacances. Donc nous, associations, on n'est qu'un moyen pour eux de pouvoir exprimer et construire des moments de vacances collectives sur leur propre territoire. Nous, ce qui était intéressant, c'est qu'on est 3 collectifs d'associations. On s'était déjà sacrifié sur nos événements pour pouvoir créer un événement commun. C'était le résultat un peu de 10 années de construction de ces collectifs. On sait que c'est difficile de mobiliser tout le monde, d'essayer de leur faire de prendre des responsabilités pour organiser des choses avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément ou avec qui on a du mal à vivre des fois à l'année. Et là, cette organisation d'une fête commune à destination de l'ensemble des habitants d'Oisel a dû être annulée car on n'a pas les moyens de la faire. Voilà.
Est-ce qu'il y a une raison à invoquer ?
Non, étant donné que la décision officielle n'est pas complètement tombée, là on a reçu un peu une missive pour nous prévenir que ça allait être ça, on n'a toujours pas eu de raison donnée directement.
Est-ce que tu fais un lien, toi, entre peut-être ce combat et puis ici cette manifestation, pour toi c'est de même logique
Oui, j'en fais un, pas forcément directement avec la loi travail, mais je pense quelque part que c'est une déresponsabilisation de la population. Là, nous, par exemple, c'était un moment où on permettait aux habitants de s'investir sur leur temps privé, de pouvoir agir en tant que citoyen, on y accordait de l'importance. C'était un moment aussi de loisirs et de culture. La loi travail vise aussi à ça, à réduire ce temps de citoyenneté à ne se concentrer plutôt que sur le travail, comme si le travail avait forcément plus de valeur que le reste, comme si l'économie était une valeur plus importante que la culture, que le vivre ensemble, que la citoyenneté en général. Ouais.
Reportage réalisé mardi 28 juin à Lille lors de la manif pour le retrait de la loi travail. Dans la continuité de cette mobilisation contre la loi travail et son monde, on vous rappelle les différents rendez-vous Nuit Debout, donc notamment Nuit Debout à Arras. C'est tous les mercredis à 19h dans les quartiers et tous les dimanches Place des Héros. Pour en savoir plus, je vous conseille de consulter régulièrement le groupe Facebook Nuit Debout Arras. Nuit Debout Lille, c'est tous les jours Place de la République à Lille à partir de 18h.